Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
La pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes de l'humanité. L'éducation est l'arme la plus efficace qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Le sage du jour s'appelle Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 11 juin 2014. Bienvenue à ce Grand Dialogue du Studio Tamani. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui fait le bilan des examens derniers. Le bilan des examens de DF et du bac sera le premier volet de cette émission. Nous verrons comment lutter contre la fraude en période d'examen. Nous verrons également s'il y a nécessité de réformer le système éducatif au Mali. Nos invités, Tiamoko Ndaou du syndicat des Nations, du syndicat national de l'éducation et de la culture, Tiano Mokhtarli du syndicat de l'éducation, Ilo Diallo de la direction nationale des examens et concours. Merci à vous pour votre disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, à la mise en onde, Petting Diara.
Studio Tamani.
Bamako, Ségou, Tombouctou, Djéné, des fuites de sujets ont été constatées dans pratiquement toutes les villes maliennes où ont eu lieu les examens du DF et le bac en cours n'a pas encore livré tous ses secrets. Des sanctions sont tombées, sont-elles suffisantes? Le ministre de l'Éducation s'est expliqué sur la question hier au Parlement. Les arguments ont-ils convaincu les parlementaires et jusqu'où peut-elle aller, cette fraude? Nous ferons le point de tout ça dans ce débat. Alors, la première question concernant ce débat, nous verrons comment faire le bilan de tout ceci. Malgré le malaise qui règne autour des examens du DF, cette année, sa bonne tenue est saluée dans les localités comme Tombouctou. Pourquoi cet exploit n'a pu se produire dans les autres localités, Tchorno Mokhtar Li?
Merci. Je remercie le studio Tamani de nous avoir donné l'occasion d'en parler, et évidemment les auditeurs aussi. Concernant les examens, je vais parler d'abord du DF. Vous avez compris qu'il y a eu des anomalies, il y a eu trop de problèmes autour de ça, jusqu'à ce qu'on est arrivé à changer des épreuves, les sujets, à partir de la biologie. Donc ça implique que ça ne va pas. Or en fait, ce qui nous a beaucoup marqué, ça c'est les sketchs et les publicités qu'on a vus à la télé en ternissant l'image des enseignants. Bon, en fait, nous avons vu que ça, ce n'est pas le problème des anciens, la fuite des sujets. Ça se trouve à d'autres niveaux. Comme on le dit couramment, le poisson commence à brûler par la tête. Donc, nécessairement, il doit prendre des dispositions par rapport à ça. Au lieu de prendre des dispositions pour mettre à nu les enseignants, moi, je crois qu'il faut prendre des dispositions pour mettre du sérieux au niveau de l'éducation. Je m'en vais attirer votre attention sur un fait qui est très important au niveau de l'enseignement fondamental. Récemment, le 4 avril, Madame la ministre a signé un arrêté en relevant 52 des CAP. C'est le directeur du centre d'animation pédagogique. Et nous savons qu'au niveau de l'enseignement fondamental, les DECAP, c'est la cheville ouvrière. Donc, à moins de 2 mois des examens, et le 4 avril, le 14, le 15, l'arrêté a été apparu. Donc, au niveau de l'enseignement fondamental, les DECAP sont la cheville ouvrière
de l'organisation des examens.
Donc, vous comprenez ce que ça va amener comme perturbation. Je n'ai rien contre ceux qui ont été nommés. Mais il fallait au moins attendre après les examens, pendant les vacances.
Donc, vous pensez que c'est un des motifs qui a fait qu'il y a eu tant
en
de...
En tout cas, ça rentre dans le cadre de l'organisation. Parce que quelle que soit la compétence de ceux-ci, ils ne pourront pas maîtriser le tout en un temps pour faire face aux activités des examens. Ça, c'est concernant le DEF. Bon, en ce qui concerne le bac, vous l'avez compris comme moi, comme tous les Maliens. Madame le ministre elle-même, elle a reconnu à la télé qu'il y a eu un problème, ce qui fait qu'ils ont arrêté pendant 2 heures de temps à peu près le démarrage
des examens.
Donc, bref, c'est ce que je voulais dire par rapport ce premier point.
Alors, nous avons également Temoko Ndaou du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Alors, Monsieur Ndaou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au cas de fraude qui ont entaché quelque peu les examens de cette année?
Merci bien, Sidio Tamani. Moi, je pense que ce problème est totalement issu des responsabilités. Il y a trop de niveaux de responsabilité pour la gestion des examens. Certes, on est allé à la décentralisation avec les structures déconcentrées, mais je vous avoue qu'il y a trop de responsables pour alors le même examen. Trop de responsables. Si bien que dès lors qu'il y a des fuites, on a des problèmes pour situer les responsabilités. Et je crois qu'on a tout le temps répété que tout en continuant à nous approprier des techniques nouvelles, nous devons de temps en temps faire un regard par derrière. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, nous utilisons l'ordinateur. C'est un nouvel appareil, mais je vous avoue qu'il y a trop de contours. Manipuler simplement l'ordinateur, ça ne signifie pas que nous allons maîtriser tout. Alors, si bien que les gens, dès qu'il y a fuite, on ne sait pas sur qui montrer, en tout cas pointer le doigt. Donc moi, je pense que dorénavant, nos responsables doivent pouvoir en tout cas situer les responsabilités en cas de fraude. Parce que si, pour un examen, alors il y a trop de responsables, dès qu'il y a problème, alors on ne sait où monter, où pointer les doigts. Ce n'est pas joli. Le bac qui est l'examen le plus crédible, aujourd'hui, on a des ennuis terribles. Imaginez hier, des gens ont fini à 22h, la deuxième épreuve, 22h. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre que dans un pays de l'épreuve de plus de 50 ans, on a des problèmes encore pour l'organisation des examens.
Que fallait-il faire, selon vous? Que fallait-il
faire? Pendant qu'on avait rien, les gens ont travaillé correctement.
Mais que fallait-il faire, M. Ndaou, pour que ces examens se passent dans les conditions idoines?
Oui, moi j'ai dit l'utilisation par exemple de l'ordinateur. Si on a des problèmes par rapport à ça, manipuler simplement, ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir connaître tous les paramètres.
C'est-à-dire, on vous suit pas trop dans cet exemple que vous donnez. Comment ça? Qui manipulait les ordinateurs? Est-ce les élèves ou bien oui. les professeurs?
Non, ce ne sont pas les élèves. Mais moi, par exemple, si on me demande, je fais un choix. À ce que je sache, au niveau du bac, quand l'instructeur choisit, c'est lui qui fait la mise en enveloppe.
D'accord.
Alors, mais ça la saisit sur un ordinateur. Mais comment on peut en arriver à des fuites pendant qu'il y a le seul responsable en droit du choix et de la mise en enveloppe? C'est extraordinaire.
D'accord. Donc à qui est-ce que vous attribuez la faute?
Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile à situer les responsables. Très difficile. Je dis qu'avec la déconcentration et la décentralisation, il y a tellement de problèmes aujourd'hui autour des examens. Hein? Il y a trop de problèmes. C'est difficile de pouvoir dire aujourd'hui celui-là est responsable. Alors, il s'agit de la hiérarchie, de pouvoir voir clairement comment revoir la structuration. Qui est responsable? Et je pense que dès lors qu'il s'agit d'un truc très sensible, il faut que l'on puisse s'assumer. Que je suis responsable, c'est moi qui dois faire ce travail. Je n'ai pas besoin d'amener 20 personnes, 50 personnes pour faire le travail.
Alors,
en ce moment, on ne peut pas citer.
Alors, Tcherno Mokhtarli a quelque chose à ajouter.
Certainement, oui. Moi je vais seulement dire que la responsabilité, il est facile de situer ça. Ce n'est pas en tout cas au niveau des enseignants à l'école, ce n'est pas au niveau des enseignants dans les lycées. La responsabilité, c'est tout au niveau de la commission qui s'occupe des concours examens, c'est-à-dire celui qui s'occupe des concours examens. Quelle que soit la situation, c'est à ce niveau. Donc si on doit prendre des dispositions, c'est à ce niveau qu'on doit prendre des dispositions. Mais on ne doit pas s'en prendre aux pauvres enseignants qui se trouvent dans les classes.
Alors, nous aurons des révélations. Le ministre a produit des rapports et avec preuve à l'appui à l'Assemblée nationale hier. Nous allons vous proposer quelques réactions du ministre. Mais avant, nous voudrons tout simplement savoir si les réfugiés maliens qui étaient dans les camps ont pu participer à ces examens du DF ainsi que du BAC. D'abord, vous, Temoko Ndaou, du syndicat national des enseignants du secondaire.
Bon, à ma connaissance, l'année dernière, quand même, on a pu organiser des examens uniquement pour nos élèves qui sont dans les pays voisins et ailleurs.
Ils sont au nombre de combien aujourd'hui?
Ils sont...
nous, cette année, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que nous pensons que la plupart étaient rentrés, ou à Tombouctou, à Gao, et pour la plupart à Bamako ici, parce qu'on avait demandé aux gens le retour de tous les enseignants. Donc, moi, quand même, à ma connaissance, je n'ai pas eu quand même d'examen spécial pour les réfugiés.
Alors, Thierno, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
Bon, par rapport à ça, comme il a bien dit, l'année dernière, on a pu prendre des dispositions, mais cette année, on n'a pas les informations par rapport à ça. Certainement, vous comprenez qu'à la veille des examens, Madame le ministre a rencontré les DAE, a rencontré des partenaires, mais ma connaissance, quand même, les syndicats n'ont pas été conviés pour qu'on puisse prendre des dispositions ensemble. Parce que nous sommes capables de dire certaines choses que les collaborateurs ne sont pas capables de le dire ça. Donc, il est bon quand même que nous soyons associés et nous écouter parfois.
Et donc, vous estimez que vous n'êtes pas écouté actuellement?
Bon, pratiquement, en tout cas, pour cet examen-là, à la veille, nous, on n'a pas été appelés pour qu'on puisse en parler. Voilà, merci.
Est-ce qu'il peut y avoir un quelconque sabotage de ces examens?
Bon, s'il y a sabotage, je ne sais pas, mais au niveau des enseignants, quand même, il n'y a pas de sabotage. Nous prenons toujours des dispositions. Par rapport à ça, les anciens, c'est un moyen pour eux de prouver que l'année s'est bien passée. Donc, ils ne vont pas saboter pour quand même. En tout cas, au niveau des anciens, il n'y a pas de sabotage. C'est certainement qu'on fait croire qu'il y a des choses, des petites choses qui se passent. C'est ce qu'on dit. Dieu a tranché les choses. La vérité a triomphé. On a tout dit sur les anciens à la télé, les sketchs, les publicités. Mais on a vu que la fuite, là, ce n'est pas au niveau, en tout cas dans les classes. Les enfants viennent avec les choses jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils sont arrivés à arrêter et à changer les sujets. Ça veut dire que ça ne va pas quelque part. Et comme vous avez posé la question, moi je ne vois d'autres responsables que celui qui s'occupe des examens et concours. Si nous devons prendre des dispositions, nous devons prendre des dispositions par rapport à ça.
Est-ce que c'est votre avis, Thiemo Kondao?
Oui, et comme il a dit, je crois qu'on doit revoir comment en organisant les examens, il faut associer peut-être tous les partenaires, notamment les syndicats. J'ai dit que lorsque nous sommes au début et à la fin, nous sommes capables de dire tout ce qu'il y a comme anomalie à toute la hiérarchie. Mais j'ai l'habitude de dire par exemple, à des directrices d'académie, alors écoutez, les autres organisaient des repas pour les surveillants, demandez-leur d'arrêter. Parce que déjà, nous avons tout fait pour qu'il y ait une indemnité de surveillance. Donc, nos surveillants peuvent avoir s'acheter à manger. Parce que tout simplement, quand les gens mangeaient, alors on venait vous demander de faciliter pour que alors, il y ait ça. Alors je me rappelle qu'à lors d'un des Kati, il y a un collègue qui n'avait pas mangé le plat de la bœuf, alors dès lors qu'il a serré, on lui a dit non, tu as mangé notre riz au gras et tu veux comment faire ceci. Il a dit non, écoutez, je n'ai pas mangé du riz chez vous. Donc vous ne ferez rien d'anormal dans ma salle. Donc il faut que l'on voit comment sensibiliser les uns et les autres. Parce que bon, les quelques brebis galeuses, pour du côté des enseignants qui traitent quelque part, mais ça, c'est quand même, ce n'est rien dans le lot. Parce que s'il y a fuite, ce n'est pas l'enseignant. Parce que c'est celui-là, alors qui organise, qui orchestre, qui doit savoir comment je dois me comporter pour qu'il y ait le moins, en tout cas, la moindre, en tout cas, erreur là-dedans. Donc, c'est le décideur. Le décideur doit réfléchir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et on doit chercher à s'organiser davantage par rapport au passé. Parce que depuis quelque temps, nous assistons à des fuites de sujets. Mais cette année, ça a été encore plus grave, c'est l'appareil.
D'accord, nous allons en pause quelques secondes, nous reviendrons pour la suite de ce débat.
Voilà.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondel. L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Voilà, comme vous le savez, nous parlons aujourd'hui de la fraude qui est autour des examens aujourd'hui, d'abord du DF et du BAC qui est en cours. Comme invité, nous avons aujourd'hui Tiemoko Ndaou du syndicat national des enseignants du secondaire et des collectivités. Nous avons également Tcherno Mokhtarli du syndicat de l'éducation nationale. Alors, la deuxième partie donc, de ce débat est consacrée à la question de savoir comment est-ce qu'il faut lutter aujourd'hui contre la fraude comme sanction immédiate au cas de fraude. Nous avons assisté au limogeage du directeur national des examens et concours. Est-il possible de lutter aujourd'hui contre la fraude au Mali, surtout en période d'examen, Tcherno Mokhtarli?
Merci, M. Sidibé. Bon, il est quand même facile de lutter contre une anomalie qui existe. En tout cas, je dis de mettre les enseignants dans les conditions. Comme ils sont en train de le faire, les frais de correction, il faut les payer à temps. Et ça nous suffit largement. On n'a pas besoin de ce... Nous, en tant que syndicat, on est en train de sensibiliser nos camarades. On a fait des meetings, on a fait des assemblées à l'intérieur du Mali, si bien qu'à Bamako, par rapport à la moralisation des examens. Mais en ce qui concerne l'administration, vous le savez, il faut mettre... Ce n'est pas en limogeant seulement le directeur national des examens et concours qui est la solution. C'est une équipe là, qui est là. Même si on limoge l'équipe qui fait... Ce n'est pas le directeur national qui a fait ce travail-là. On le sait. Lui, il est le premier responsable. Donc, il ne va pas se permettre de saboter ce qui, en tout cas, qui lui fait honneur. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui est là. Et c'est cette équipe qu'on doit dénicher et savoir ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut mettre chacun à sa place. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Sans tenir compte des relations politiques ou quoi que ce soit. Et c'est ça le problème.
Donc comme vous pensez qu'il y a une gestion politique au sein de...
Certainement. Je le pense. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'à la veille des examens, qu'on fasse un grand mouvement de décap. Jusqu'à preuve du contraire, je n'arrive pas à comprendre cela. Dans la mesure, le tout n'est pas mauvais quand même. Ceux qui ont été relevés. Je n'ai rien contre ceux qui ont été nommés. Ceux qui ont été relevés, ils ne sont pas tous mauvais. Et je ne peux pas comprendre que l'arrêté a été signé le 4 avril et ils ont attendu jusqu'au 14
pour faire sortir. Fonction, ou bien...
pour faire sortir l'arrêté.
L'arrêté.
Et quand l'arrêté est sorti, tenez-vous bien, en moins d'une ou deux semaines, ils ont fait les passations. Bon, mais ce n'est pas la solution. Puisque le DEF a commencé, vous le savez, le 4. Donc, à moins d'un mois, faire tout ça et prendre des dispositions. Moi, je trouve que s'il y a sabotage quelque part, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Il fallait quand même attendre les vacances pour faire ce travail. Ça, c'est un premier point. Comme je l'ai dit, le choix des responsables, c'est très important. Il ne faut pas qu'on tienne compte de quoi que ce soit, qu'on tienne de la valeur, de la compétence des individus. Certes, vrai qu'on a des crédits politiques, mais pour les examens et les concours, dans la mesure où il y a des anomalies là-bas, il faut mettre les hommes qu'il faut à ce niveau. Voilà.
Alors, Tiemoko Ndaou, est-ce que vous convenez avec Monsieur Li que les nominations récentes sont à la base de tout ceci?
Bon, c'est très difficile de confirmer cela, mais dans tous les cas, celui qui est chargé de nommer, il sait qu'on est à tel moment, il y a cela. Donc, mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme l'a dit mon camarade, alors, depuis la Deuxième République, c'est un certain slogan qui n'est pas encore respecté. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il y a des postes techniques, il y a des postes politiques. Mais je crois qu'on fait l'amalgame même entre ces postes politiques et les postes techniques. Et je pense qu'il faut des mesures drastiques pour lutter contre la fraude qui se place dans le contexte de la corruption. Je vous donne alors une petite anecdote. Au sortir d'une mosquée sunnite, il y a quelques années, il y a un qui dit « Ah non, vraiment, votre problème d'examen, le DF, là, j'ai payé 250 000 pour trois de mes enfants. » J'ai tout de suite répliqué « Mais est-ce que vous savez la portée de ce que vous dites? Vous sortez d'une mosquée sunnite. » Donc, ça voudrait dire que c'est un problème de société. Aujourd'hui, alors, les gens pensent qu'il faut tout faire, en tout cas, pour que en tout cas, leurs enfants réussissent. Alors, même toutes les religions, finalement, on a des problèmes. Parce qu'aucune religion... ne déconseille le bon comportement. Aucune religion. Toutes les religions tendent vers la perfection. Mais je ne comprends pas. Au sein de la société unique, on pense qu'on a défendu 250 ans pour aider ses enfants lors d'un examen. Donc vous comprenez que c'est un problème de société. Et c'est aux dirigeants d'être très, très, très exigeants, avoir des mesures drastiques. Il faut des sanctions.
J'ai même l'habitude de prononcer, mais quelqu'un que vous prenez, vous le faites pour 6 mois.
Alors,
parce qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur.
Alors, monsieur Lee a quelque chose à ajouter à la...
Bon, il y a des petits détails qu'il faut tenir compte quand même par rapport à l'organisation des examens. Par exemple, actuellement, peut-être pour besoin économique, les enseignants ne bougent plus pour la surveillance du DF. Je prends l'exemple sur le DF. Autrefois, comme vous le savez, les enseignants de Bamako, je donne un exemple, partaient surveiller dans la région de Koulikoro. Et ceux de Koulikoro venaient à Bamako.
Donc totalement dénaturé.
Bon, avec tout ça, ça rentre dans l'organisation des examens. Parce que ça permettait quand même aux enseignants de ne pas être en contact.
D'être dépaysés sur le
certainement,
site
certainement,
de
certainement, certainement. Donc il y avait tout le sérieux autour de ça. On a mis frein à ça. Et maintenant, vous êtes en commune 1, seulement on vous fait déplacer d'école en école. Vous êtes dans le même quartier. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'organisation. Donc moi, je propose quand même qu'on revienne à ce système, que les enseignants d'une région partent dans d'autres régions, bien d'une localité, changent de localité. Pour la surveillance des choses, sans tenir compte des frais de périm, etc.
Alors, voilà. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé à être reçu hier par l'Assemblée nationale et au cours de cette rencontre, elle a fait des révélations enregistrées du genre « la sauce est-elle prête ?» Mais malheureusement, ce son est inaudible et impossible pour nous donc de vous le proposer. Par ailleurs, le ministre estime que c'est toute la chaîne des examens qu'il faut contrôler avant d'insister sur un point essentiel. Nous l'écoutons.
Par rapport à la fraude, on m'a dit ici qu'il y a également la correction. Ça veut dire que à tous les niveaux, il y a risque. C'est ça le problème de l'éducation. À chaque niveau, il y a risque.
Alors, vous l'avez entendu tout de suite, Tiemoko Ndao, le ministre parlait de fraude et également au niveau de la correction, il y a des risques. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à cette étape. Que faut-il faire pour éviter encore une fois les cas de complaisance à ce niveau?
Alors, pour la correction, j'étais très content cette année quand j'ai vu une lettre de la part de l'inspecteur en chef demandant cette année, pour le fait des correcteurs, de produire une copie du diplôme plus l'emploi du temps. Parce que je vous avoue que depuis des années, je suis en train de me battre pour ça, que d'abord, les correcteurs sont ceux qui sont les tenants des classes d'examen. Ceux qui ont exécuté le programme pendant l'année scolaire, ils sont prioritaires. Mais à quoi on assiste? À des gens qui sont retraités depuis 15 ans qui vont pour corriger. À quoi on assiste? À des gens qui sont dans l'administration depuis 15 ans. À quoi on assiste? Des gens qui sont dans d'autres départements. Je suis au ministre des Affaires étrangères, je viens corriger le secrétariat. Je suis à l'administration culturelle, je viens corriger le secrétariat. Pourquoi faire pour avoir 100 000 francs, 150 000 francs? Donc moi je pense qu'il faut que les inspecteurs prennent leurs responsabilités cette année en ne désignant que les détenteurs des classes d'examen. Des gens, imaginez au contrôle, j'ai l'habitude de passer au contrôle, vous prenez 15 copies toutes à 5. 10 copies, c'est 3, 3, 3. Est-ce que ça, c'est une correction correcte? Est-ce que c'est corrigé réellement? Donc, moi, je pense que à tous les niveaux, les gens doivent réellement voir, honnêtement, que l'on puisse sauver notre école. Que l'on fasse correctement. Imaginez quelqu'un qui est sorti de l'ESICA. Alors, il enseigne dans une école privée. On l'amène pour corriger le BT. Et voilà, l'école menace. C'est toi qui dois corriger le même niveau. Qu'est-ce que tu vas corriger?
Alors,
donc, il faut que vraiment, on se regarde en face et qu'on se dise, chacun doit travailler le minimum de conscience qu'il faut pour que, en tout cas, l'on puisse faire avancer notre école, qui est aujourd'hui dans une situation très, très, très dangereuse.
Alors, Tierno, votre avis sur cette étape des examens qui est la correction?
Bon, puisqu'on n'est pas arrivé à ce niveau, mais ce qui est sûr,
je
rejoins le camarade Ndao par rapport à ça. Il faut que qu'on tienne compte des propositions des investisseurs locaux. Je vais dire par là. Par exemple, si nous prenons l'enseignement fondamental, là où j'insiste beaucoup sur ça, il est détenteur, comme le camarade a bien dit, des classes d'examen.
Oui.
Les propositions des directeurs d'école. Il faut tenir compte de ça. J'attire votre attention sur un fait, le moment des examens. Il y a certains qui ont leur nom à tous les niveaux. À tous les niveaux.
Donc, il y a complaisance.
À la surveillance, à la correction, au secrétariat et à tous les niveaux.
Ce qui n'est pas normal.
Moi, je trouve que ce n'est pas normal.
Des enseignants qui sont retenus pour toute la chaîne.
Moi, je veux qu'on prenne quand même des gens, comme je l'ai dit, qui sont capables de faire le travail. Mais si on amène n'importe qui, des gens par-ci, par-là, pour la correction, uniquement pour qu'ils puissent avoir de l'argent,
mais ça va créer des problèmes. Monsieur Lee, est-ce qu'en en cherchant à mettre les personnes capables, on n'est pas obligé de revenir sur les mêmes personnes?
On n'est pas obligé de revenir sur les mêmes personnes dans la mesure...
Pensez-vous qu'il y a dans la mesure,
il y a un système de rotation au niveau de la correction. Nous avons lutté en son temps par ça, pour ce problème-là. Il y avait uniquement les mêmes personnes, nous avons lutté pour ça et nous avons demandé qu'il y ait un système de rotation. Mais en tenant compte d'un fait, celui qui accepte quand même de prendre la classe d'examen, qu'il soit prioritaire par rapport à la correction. Voilà.
Alors, le ministre de l'Éducation a appelé les promoteurs d'établissements scolaires privés à plus de responsabilités et de sérieux dans la tenue des examens de fin d'année. Le ministre a affirmé hier devant le Parlement que les inspecteurs qui proposent les sujets d'examen au département sont les seuls à pouvoir manipuler les sujets. Et selon elle, c'est une véritable mafia qui règne autour de ces cas de fraude. Voici un extrait de ses propos, des propos de Madame le ministre devant le Parlement.
Aujourd'hui, il y a fraude dans une matière. Celui qui m'a proposé cette matière, ça, il va se retrouver en prison parce que je vais l'y envoyer. Personne n'a manipulé les sujets. Ça m'a été donné et nous avons travaillé là-dessus, donc personne n'était là. S'il y a fraude, ça veut dire que c'est l'inspecteur qui a donné le sujet au promoteur. Donc, il va répondre. Donc, je suis d'accord avec vous, la fraude, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau de l'anonymat, c'est au niveau de la correction, c'est au niveau des résultats. Donc, à tous les niveaux, il faut rester vigilant.
Alors, Tiemoko Ndao, est-ce que c'est uniquement en milieu privé que ces cas de fraude sont décelés?
Non, pas du tout. Les cas de fraude sont presque partout. Mais généralement, c'est accentué au niveau du privé. Je me rappelle que j'ai fait le déplacement dans une région, dans un centre où on vendait total presque le bac. J'ai fait le déplacement, c'était en 2011. J'ai trouvé qu'il y avait certainement un réseau pour cela. Dieu merci, on s'est aidé, les camarades qui étaient dans la même équipe, pour bloquer cette année. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile, mais y compris même les agents de sécurité étaient là-dedans. Donc, dans les privés, même autour de Gonaro ici, il y a un certain nombre d'établissements qui sont affichés. Donc, j'ai même la liste. J'ai dit aux responsables de l'éducation, écoutez, voilà des écoles qui organisent n'importe quoi. Faisons en sorte qu'ils puissent réellement faire les examens. Et j'étais dans le secteur aussi, au BT l'année dernière. Ça n'a pas été facile. Parce que dans certains secteurs, on menace même les surveillants qui sont rigoureux. On menace même les chefs des centres. Donc moi, je m'étais préparé pour aller. Mais je vous avoue que j'ai pu faire totalement sans incident. Sauf un cas où il y avait un débile mental qui était dans mon centre. Que j'ai amené à la gendarmerie pour 24 heures.
Alors, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité des inspecteurs qui proposent les sujets dont parlait tout à l'heure Madame le ministre?
Oui, je vous ai dit que nous utilisons aujourd'hui l'ordinateur qui est un outil moderne, mais je vous avoue que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas tous les paramètres.
Donc vous pensez que c'est par manque d'expérience en matière d'informatique qu'il y a eu fuite cette année?
Non, la sécurisation par exemple, la sécurité du porte ordinateur n'est pas très sécurisée. Mais je vous avoue qu'on peut prendre, c'est sûr, je ne suis pas peut-être un grand technicien à la matière, mais avec les échanges avec les uns et les autres, parce que tellement que ça a dépassé mon entendement, j'étais hier avec un ingénieur informaticien qui dit mais... Quelle que soit votre assise, si vous êtes connecté, on peut prendre ce qui est dans votre ordinateur. Bon, moi, je ne sais pas, c'est un terrain glissant pour moi. Mais moi, je me suis dit que lorsque on faisait presque tout à la main, les machines simples là, il y avait très peu de fraude. Et je me rappelle que le chef de division examen et concours peut-être déménager même au ministère de l'Éducation pendant 45 jours.
Durant toute la période des examens, nous allons permettre à Tierno Mokhtar Lee de répondre, de réagir par rapport aux propos de Madame le ministre durant cette période où elle était au Parlement. Mais juste avant, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reviendrons dans ce débat.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous sommes à la troisième partie du Grand Dialogue du Studio Tamani consacré à la possibilité d'avoir une réforme aujourd'hui du système éducatif. Nos invités, deux syndicalistes, nous avons malheureusement convié le département de l'éducation à ce débat et nous n'avons pas eu de suite à notre invitation. Nous avons donc en ligne Tchemoko Ndaw du syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités. Nous avons également dans ce studio Tcherno Mokhtarli du syndicat de l'éducation nationale. Alors, avant d'entamer avec la seconde partie sur les réformes, nous permettons à M. Lee, à Tcherno Mokhtar Lee, de réagir par rapport à cette responsabilité des inspecteurs qui proposent les sujets au département. Qu'est-ce que vous pensez de cette responsabilité des inspecteurs?
Bon, vous savez, madame a anticipé en allant à l'Assemblée pour s'expliquer. Sans cela, elle allait être interpellée. C'est que certains, je dis ça, quoi. Et normalement,
c'était sur sa demande.
C'est sur sa demande qu'elle est venue. C'est elle qui a parlé des promoteurs. Mais d'une façon générale, il y a eu la fraude. Maintenant, les promoteurs, ça, c'est autre chose. Les promoteurs, ça veut dire que les promoteurs ne choisissent pas les sujets. Ils cherchent avec des gens et des responsables. Comme je l'ai dit là, ce n'est pas le premier responsable des examens et concours seulement. Hein. C'est une équipe qui est là-bas. Donc, on doit prendre des dispositions par rapport à ça. Madame, heureusement, elle a parlé des inspecteurs. Donc, qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Que ce soit l'ordinateur, que ce soit fait à la main, ce qui est sûr, il y a l'individu qui est responsable de cet acte-là. Et c'est ça qu'il faut considérer. Moi, je trouve que ce n'est pas le fait qu'il y ait la technologie développée, l'ordinateur qui est fuite. Là où l'ordinateur a quitté, ils font des examens, il n'y a pas fuite là-bas. Ce n'est pas au Mali qu'on va dire qu'il y a fuite parce qu'on a des ordinateurs. Je ne verrai rien à ce que j'ai dit. Il faut mettre les hommes à la place qu'il faut pour que le travail, l'examen puisse être organisé comme on le pense, sans tenir compte des relations politiques. D'accord. Mais tant qu'on ne tient pas compte de ça, il y aura toujours la fuite. Et on va toujours s'en prendre aux pauvres enseignants. Chose qui nous fait mal, nous, en tant que syndicats. Si nous voyons ces sketchs à la télé, ces publicités à la télé,
Il y a une part de vérité quand même, monsieur.
Certainement, il n'y a pas une part de vérité. C'est ça, il n'y a pas une part de vérité. Parce qu'il ne faut pas tenir compte de quelques-uns pour sanctionner tout le monde. Nous avons lutté pour qu'il y ait la majorité et pour qu'il y ait la majoration en ce qui concerne nos frères de surveillance, etc. Même, comme le camarade a bien dit, le fait que le comité de gestion prépare, etc., on a dit d'arrêter tout. Nous, on va se contacter de nos frères de corruption et on est en train de sensibiliser les camarades. Certainement qu'il y aura quelques éléments quand même qui vont prendre le train en marche. Donc, il ne faut pas profiter de ces quelques éléments pour salir, pour ternir l'image des enseignants. C'est ce que j'ai dit, la vérité a triomphé. Parce que la fuite, ce n'est pas au niveau des écoles. Ça, c'est.
On dit que des
merci, le poisson commence à pourrir par la tête, je reviens sur ça encore.
D'accord. Alors, Tchemoko Ndaw, est-ce que finalement, le directeur national des examens et concours qui a été relevé, c'est lui le bouc émissaire? Qu'est-ce que vous pensez de cette sanction qui vient de lui être infligée?
Oui, mais celui qui pilote, il a les responsabilités des examens. La police de surveillance, le règlement, tout, il a posé sa signature sur ses papiers. Donc moi, je pense qu'il doit être regardant, hein, de bout en bout, tout ce qui concourt à l'organisation de l'examen. Lui, il doit être au début et à la fin pour éviter la moindre erreur. Donc, le premier responsable, c'est le patron du centre des examens et concours. Il est le premier responsable. Parce que si... Alors les gens doivent choisir, c'est celui qui demande aux uns et aux autres de choisir le sujet. Alors donc, j'ai dit lors de ma première intervention qu'il y a trop de responsabilités pour peu de responsabilités.
Alors, et cette responsabilité,
ça veut dire qu'il y a trop de gens qui interviennent
pour peu de résultats.
Personne n'est Et personne n'est vrai responsable.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité des promoteurs d'établissements privés est engagée?
Mais, bon, dans cette suite, je crois que j'ai dit que c'est un problème de société, hein, parce qu'il faut que quelqu'un fasse, et qui soit dans le réseau. Parce que si c'est un grand réseau, alors les promoteurs sont là-dedans, parce qu'on a compris pendant longtemps. Imaginez quand le collègue lui a dit que les gens surveillent chez eux. Je me rappelle encore qu'il y a quelques 7 à 8 ans, dans une école privée, les enseignants surveillaient chez eux. Et il suffisait, après 30 minutes, après avoir distribué le sujet, 30 à 45 minutes, on accompagnait chaque fois les candidats dans les toilettes. Il avait des dispositifs aménagés par les privés. Chaque fois, donc on a dit, mais on ne comprend pas que chaque 45 minutes, 30 minutes, il y a des candidats qui se déplacent. Alors, nous avons été fouiller les toilettes, on a trouvé des cartons de cahiers. Donc, si bien qu'on a demandé à ce que les gens soient aujourd'hui déplacés, il y a des gens qui quittent Sévenicoro, par exemple. Il y a des Sévenicoro qui sont dans mon centre à Blocosebou. Il y a des gens qui viennent pour dormir même au centre. Tout cela pour qu'on puisse éviter la fraude dans les établissements.
Alors, au vu de tous ces problèmes, y a-t-il nécessité aujourd'hui de reformer le système éducatif? Faut-il un autre moyen d'évaluation des niveaux dans le système scolaire, Tierno Mokhtarli?
Non, il n'y a pas d'autre moyen. Le même moyen, mais seulement il faut mettre des garde-fous, il faut chercher à corriger ce qui ne va pas. Et prendre des dispositions, je crois que c'est de ça qu'on parle tout de suite.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Quelle proposition est-ce que vous proposez aujourd'hui?
Il faut voir, j'ai dit, la commission qui s'occupe des examens et concours. C'est à ce niveau qu'il faut travailler d'abord.
Elle n'est pas bien constituée, selon vous?
Certainement, parce qu'il y a une fuite. Il y a une fuite, c'est par rapport à ça. S'il y a une fuite, qu'elle soit bien constituée ou pas, en tout cas, il y a une fuite. Et quand on parle de fuite, il s'agit de ceux qui s'occupent des examens et concours. Donc, ce ne sont pas les pauvres enseignants. Moi, je trouve que c'est à ce niveau qu'il faut voir et prendre des dispositions par rapport. Ce n'est pas pour rien que madame a suspendu le premier responsable des examens et concours. Parce qu'il trouve que c'est à ce niveau qu'il y a tout le problème. Mais certainement qu'il n'est pas le seul. Il ne doit pas être suspendu. Pour moi, c'est toute une équipe là. Donc, il faut revoir tout ça et prendre des garde-fous par rapport à l'exécution de ces examens.
D'accord.
Mais si chaque fois, ça fait quelques années, on parle de fuite, il y a les responsables qui ne connaissent pas parfois, qui a fuite. Donc, on ne fait qu'encourager. Mais si on cherchait à voir clair là-dedans, comme elle veut faire, comme elle pense faire, je suppose, parce qu'elle parle des promoteurs, elle parle des inspecteurs, nous allons voir ce que ça va donner.
Alors, Tiemoko Ndao, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui le système éducatif pour qu'il y ait moins de problèmes comme de ce genre-là?
Oui, mais on est dans la lancée, en tout cas, de la réforme. Mais je vous avoue que pour les évaluations, on a des problèmes depuis quelques années. Mais le collègue, le camarade vient de le dire, il faut qu'on ait un dispositif fiable. Le dispositif fiable, par exemple, l'inspecteur de telle ou telle discipline est tenu seul le responsable. En ce moment, dès qu'il y a fuite, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais il y a le centre des examens, il y a l'académie, il y a l'inspection, il y a donc tout le monde dans la main dans la chose, dans la chose. Quand il y a fuite, tout le monde se regarde. Il faut qu'on puisse dire, s'il y a fuite, c'est toi qui es responsable. En ce moment, il prendra toutes les dispositions pour minimiser la fraude.
Alors, le budget aujourd'hui, le budget accordé à l'éducation est-il finalement bien utilisé?
Le budget
accordé aujourd'hui à l'éducation, est-ce qu'il est bien utilisé?
Bon, c'est une question d'ailleurs, parce que dans tous les cas, de bout en bout, les gens ont fait des formations, mais qui ne sont pas très satisfaisantes. Alors, on fait les examens jusqu'à la fin de l'année, mais dès lors que les pouvoirs publics nous disent wow, « on a tel ou tel pourcentage du budget », mais c'est très faible par rapport aux pays voisins. Ce qu'on alloue à l'éducation au Mali, c'est faible par rapport aux pays voisins.
Et malgré que l'éducation soit le secteur le plus budgétivore. Alors, Tierno Mokhtarli, dites-nous si aujourd'hui le budget qu'on accorde à l'éducation est bien utilisé.
Le budget est bien utilisé, certainement. Le budget est bien utilisé. Le camarade a bien dit, par rapport aux autres pays voisins, ça ne va pas. Et notre budget est très faible. Donc, j'ai dit, pour les examens, il faut mettre les gens dans les conditions pour qu'on puisse réclamer quand même quelque chose avec ces gens-là.
Si je prends, par exemple, la correction, je prends la surveillance, nous souhaiterons qu'il y ait une certaine augmentation. Nous avons toujours dit ça au ministère. Certainement, il y a eu une petite augmentation cette année. Depuis l'année dernière, ils ont appliqué ça, ils ont rappelé, et puis ils ont appliqué ça. Nous continuons à sensibiliser les camarades. Maintenant, la réforme, comme vous dites, comme telle, là, on est sur là-dessus, on est sur cette lancée. Mais il faut reconnaître qu'il y a des dispositions draconiennes par rapport à la nomination des responsables à des places qu'il faut tenir compte. Tant qu'on ne fait pas cela et qu'on essaie de faire dos à des relations politiques, les choses ne vont pas aller comme on le pense. Parce que moi, je sais que ce n'est pas un seul individu ou bien un inspecteur seulement qu'on peut prendre parce que c'est lui qui a choisi les choses. L'inspecteur peut faire le travail, mais il travaille avec d'autres. C'est une équipe qui est là. Donc, il faut tenir compte de ça.
Alors, voilà. Tiemoko Ndao, vous parliez tout à l'heure du budget. C'est près de 1 milliard de francs CFA qui est investi par jour, près de 1 milliard qui est investi par jour au Mali, sinon plus de 300 milliards utilisés selon nos chiffres, attribués au département de l'éducation par l'État. Est-ce que finalement on constate ce même chiffre dans les pays voisins?
Oui, dans les pays voisins, peut-être que c'est judicieusement utilisé.
Mais le Mali, plus de 300 milliards.
Oui, mais ce qui est alloué dans les pays voisins dépasse de loin.
C'est plus
la somme qui est allouée chez nous ici.
C'est plus de 300 milliards.
Mais bien sûr. Bien sûr. Que nous, imaginez, nous avons des réformes. Quand vous prenez le fondamental, on a le curriculum bilingue. Quand vous êtes à l'enseignement secondaire, c'est l'approche par compétences, mais qui ne sont pas très bien maîtrisées par ceux qui doivent faire ce travail. Parce que la formation n'y est pas. Imaginez, vous voulez une nouvelle méthode d'enseignement. Alors vous faites suivre quelqu'un une formation d'une semaine. Non, c'est insignifiant. Hein, même si vous êtes intellectuel, on dit non, il a la faculté de pouvoir... Non, ce n'est pas vrai. Celui qui est formateur doit vous faire au moins 45 jours de formation pour maîtriser le B.A.B.A. de la méthode. Ensuite, lui, il les aide, par exemple, l'inspecteur. Il doit venir faire au moins un mois de formation pour les enseignants qui doivent pouvoir maîtriser alors le système en classe. Mais je vous avoue, cette année, que le secondaire général, si on doit corriger le bac suivant, l'APC, mais ce serait le fiasco.
D'accord. Alors, un dernier mot, Tiemoko. Est-ce que vous pensez que c'est un autre coup dur qui vient d'être infligé à la crédibilité du système éducatif malien?
Oui. Oui, parce que imaginez, depuis hier, nous sommes en train de tâtonner. On tâtonne. Hein, la première épreuve, moi, dans mon centre, la première épreuve a commencé après 10 heures. Je suis resté jusqu'à 19 heures. C'est un camarade qui est derrière le feu. La dernière épreuve, c'était à 22 heures, avec des bougies.
Donc un sentiment d'amertume constaté de façon générale. Alors Tierno Mokhtarli, un dernier mot peut-être sur cette crédibilité qui vient d'être encore une fois lésée du diplôme malien.
C'est pas un coup dur depuis hier, hein. C'est un coup dur depuis le DEF. Depuis le DEF, ça ne va pas. Ça a été un coup dur. Et je
un
crois
mot
que.
L'espoir.
Bon, l'espoir, c'est on trouve que. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ils D'accord. prendront des dispositions par rapport à ça.
Merci à vous, messieurs. Okay. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Ces mots sont de Aristote et c'est sur ces mots que nous nous quittons. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres. Ce grand dialogue merci. Du studio Tamani réfléchissait sur la fraude autour des examens de fin d'année au Mali. Nous avons fait le bilan des examens au DF et du bac, vu comment lutter contre la fraude en période d'examen, vu également s'il y a nécessité de réformer le système éducatif malien. Nos invités, Tiemoko Ndao, syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités, également avec nous. Nous avions également avec nous Tierno Mokhtarli du syndicat de l'éducation nationale. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie, messieurs. Je suis Famoussa Sidibé à la mise en onde de Peting Diara. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Je vous dis à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.